France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si les entreprises imitaient la nature ? Nous parlons aujourd'hui de biomimétisme. Je reçois un grand spécialiste de ce sujet important. Le biomimétisme consiste à s'inspirer des végétaux et des animaux, de leur stratégie, de leur génie, de leur sens de l'adaptation. Tariq Chekchak, au sein de l'Institut des Futurs Souhaitables, enseigne aux professionnels en tout genre à placer le biomimétisme au cœur de leur travail, car le vivant a beaucoup à nous apprendre. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Tariq Chekchak.
Bonjour.
Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Vous êtes biologiste marin de formation, ingénieur écologue. Vous avez travaillé à la Fondation Cousteau et vous êtes responsable du pôle stratégie inspirée du vivant dans cet Institut des Futurs Souhaitables qui est un centre de formation et de réflexion qui existe depuis un peu plus de 10 ans. Vous travaillez sur le biomimétisme depuis des années, Tariq Chekchak. J'ai envie de vous demander d'abord comment vous définissez ce terme et aussi est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu parler de biomimétisme ?
Bien sûr, je m'en souviens très très bien. C'était lors d'un congrès mondial de l'Union internationale de conservation de la nature à Barcelone. Et à cette époque-là, quand j'étais chez Cousteau, donc je dirigeais les programmes sciences et environnement des deux associations créées par le commandant Cousteau, je travaillais sur des terrains où on essayait de faire le lien entre protection de biodiversité remarquable et réduction de la pauvreté. Des zones comme la côte de la mer Rouge au Soudan, 750 km de côte. J'ai la chance aussi d'être chef d'expédition polaire depuis plus de 25 ans. Ce qui veut dire que j'ai vu notre belle planète et j'ai vu aussi ses changements. Et j'ai découvert plus tard que je faisais partie de ceux qui souffraient d'une nouvelle maladie psychologique qu'on appelle la solastalgie. Le fait d'avoir connu un environnement qui n'est plus là maintenant. Et c'est la Madeleine de Proust environnementale d'une certaine façon. Il y a quelques belles histoires aussi, on voit des choses capables de se régénérer. Si on laisse la nature se réparer, elle est capable de le faire. Mais à cette époque, j'étais un petit peu désespéré de voir que malgré nos bonnes pratiques, créer des parcs nationaux, faire en sorte qu'ils soient repérés par les Nations Unies, patrimoine mondial de l'humanité, quand vous avez des événements climatiques extrêmes et que vos coraux blanchissent plusieurs fois de suite, tous vos efforts servent à rien. Il semblait y avoir une guerre larvée entre la technosphère et la biosphère, entre les technologies humaines et la façon dont le vivant fonctionne. Et c'était la même chose en l'Arctique ou en Antarctique, de voir des paysages virginaux de matin du monde pollués par des déchets en plastique ramenés par les courants. Et le biomimétisme, pour moi, lors de ce congrès, je l'ai découvert par un ami, Gauthier Chapelle, avec qui j'avais travaillé sur des sujets liés aux dauphins et à l'Antarctique d'ailleurs aussi, et qui m'a parlé pour la première fois d'un stage qu'il venait de faire avec une américaine qui s'appelle Janine Binius, qui est la première à avoir posé ce terme biomimétisme, biomimicry en anglais. Parce que s'inspirer du vivant, c'est vieux comme l'humanité. Par contre, le faire pour essayer de résoudre les enjeux de l'époque, que sont le dérèglement climatique, l'érosion de la biodiversité, et même, je dirais, les aspects humanistes d'inégalité, ça c'est un peu plus nouveau, et c'est à Janine qu'on le doit depuis 1997.
Donc le biomimétisme, c'est l'idée de prendre la nature pour modèle, mais dans une perspective de transition écologique.
Exactement, et humaniste, je rajouterai. C'est très important de faire cette différence, parce que sinon on peut s'inspirer du vivant et de la nature, tout en continuant à la détruire.
Alors que viennent faire les entreprises dans cette histoire, Tariq Chekchak, parce que c'est bien ce que vous proposez à l'Institut des Futurs Souhaitables, du biomimétisme en entreprise.
Alors, pour être plus large, en organisation en général, ça peut être entreprise, ça peut être des collectivités, ça peut être des structures de l'État. J'ai la chance d'avoir cofondé une structure qui s'appelle le CEBIOS, le Centre d'Excellence et d'Expertise en Biomimétisme, qui est une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, où vous avez aussi bien des grands groupes que des start-up, que des collectivités, des régions même. Et ça, c'est important, cette question de comment finalement cultiver ce signal qui est un retour au vivant qui est attendu par les organisations. Et dans le langage des entreprises, on voit même que les métaphores changent. Par exemple, on parle beaucoup de la boîte, des rouages d'une organisation, ce sont des métaphores mécanistiques qui viennent des révolutions industrielles, des chaînes de décision. Tout ça, c'est des métaphores industrielles. Et de plus en plus, on entend parler d'ADN d'une organisation, d'écosystème d'acteurs. En fait, le pari de l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est cultiver ce qu'on appelle un signal faible, signal fiable. Il y a quelque chose là qui nous dit ce qu'on a envie de voir surgir de meilleur dans l'avenir Et le biomimétisme fait partie de ce signal où on réinterroge notre place au sein de la toile de la vie. Est-ce que le vivant, c'est simplement une matière première à exploiter, une ressource, ou est-ce que ça peut être un partenaire, un modèle inspirant, voire un problème avec lequel il va falloir inventer, comme le dit le philosophe Baptiste Morisot, une forme de diplomatie interespèce.
Auriez-vous d'ores et déjà un exemple à nous donner d'une organisation que vous avez accompagnée, que vous avez formée, et sur quelle facette du vivant s'est-elle appuyée ?
Alors sans vouloir faire leur publicité, je pense que c'est quand même important de citer L'Oréal par exemple. On a formé plus d'une centaine de chercheurs à la méthodologie d'accompagnement biomimétique parce qu'il ne s'agit pas simplement de se dire on imite la nature juste comme ça par sérendipité. Il y a aussi des méthodes, il y a aussi des thèses de doctorat qui ont été faites pour accompagner méthodologiquement dans une dynamique de résolution de problèmes. Il y a deux grandes façons de faire de la bio-inspiration. Soit j'ai déjà le modèle vivant, par exemple, oh, extraordinaire, la feuille de lotus est capable de s'auto-nettoyer. Donc j'ai déjà le modèle. Et ce que je vais faire à ce moment-là, c'est retirer des recettes de conception pour comprendre ses propriétés auto-nettoyantes de la feuille de lotus. Et ensuite transférer ça dans différents types de technologies, des peintures auto-nettoyantes, de différents types de surfaces, etc. Mais c'est un peu plus complexe quand on a un problème à résoudre et on ne sait pas quel modèle vivant pourrait être source d'inspiration. Et c'est là où l'accompagnement méthodologique est important. Et donc L'Oréal, par exemple, plutôt dans la cosmétique, remplacer certaines substances par d'autres. Il y a des projets dont je ne peux pas parler malheureusement qui sont encore couverts par des clauses de confidentialité. Mais c'est aussi les routines, par exemple, de toilettes, s'inspirer dans le monde animal, les différents types de routines, des organes comme une langue de chat, par exemple, capable de nettoyer. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des routines qui utilisent des instruments qui peuvent être inspirés de la langue de chat ? Ça ne veut pas dire faire exactement comme, c'est s'inspirer des recettes de conception sous-jacentes. Je pourrais citer également dans l'énergie RTE, le réseau de transport électrique, qui nous font toutes les lignes importantes pour nos réseaux d'électricité d'aujourd'hui et de demain. Et il y a, avec le développement des éoliennes en mer, une nécessité de faire potentiellement des centaines de kilomètres de câbles sous-marins. Avec, pour le moment, des protections de ces câbles qui ne sont pas sans impact, des enrochements, des ensouillages où on va creuser pour mettre dans le substrat marin. Et l'idée, ils ont accepté d'explorer cette direction-là, il y a un prototype en mer qui est en train d'être testé actuellement, c'est peut-être non seulement de réduire les impacts négatifs, mais de faire en sorte que ces structures qui vont protéger les câbles deviennent des oasis de vie pour la biodiversité marine.
Les entreprises ont-elles réellement envie de penser à leur lien à la nature, d'après vous, Tariq Chekchak, ou est-ce qu'il y a aussi une stratégie de communication, une manière, disons-le, de repeindre en vert leur activité ?
Comme tout concept, il y a toujours un risque de dérive et d'utiliser surtout l'aspect marketing de l'aventure. Mais ce qui est intéressant à notre époque, c'est quand même assez rapidement, il y a tout un réseau d'ONG, il y a tout un réseau d'acteurs qui peuvent pointer du doigt quand on n'est pas vraiment sincère. Et bien souvent, c'est plutôt les équipes de R&D, en fait, de recherche avancée et de recherche et innovation qui vont être nos vrais interlocuteurs. Par la suite, le marketing raconte la belle histoire.
Qu'est-ce que ça représente en poids économique en France, le biomimétisme, Tariq Chekchak ?
Une estimation qui a été faite par NewCorp Conseil, qui s'appelle Biomim Invest, a estimé à 600 millions d'euros à peu près depuis, en 2023 en tout cas, les capitaux qui ont été levés par des entreprises qui font de la bio-inspiration et du biomimétisme. Une des premières, c'est Prophétie, par exemple. Prophétie, ils se sont inspirés de l'œil humain. Parce que l'humain peut être aussi, le corps humain peut être aussi une source d'inspiration. Et c'est très intéressant, donc ils ont levé 127 millions d'euros quand même. C'est très intéressant de voir que dans le monde du digital, on a un problème d'obésité également informationnelle. Et l'œil, en fait, va repérer surtout les mouvements nouveaux sur un arrière-plan qui, lui, a été enregistré une première fois et on n'a pas besoin de l'enregistrer en permanence. Ce qui intéresse l'œil pour détecter soit une opportunité, soit un risque, c'est ce qui a changé. Et en se basant sur ça, ils ont mis au point des capteurs qui sont capables d'enregistrer avec beaucoup moins de données stockées et qui peuvent servir aussi bien pour le biomédical, pour aider par exemple à retrouver la vision partiellement au moins pour des personnes qui ont été affectées, ou pour des véhicules autonomes. Donc on va repérer le mouvement plutôt que tout enregistrer. Une autre entreprise, 121 millions d'euros, presque 122, Tissium, là c'est dans le biomédical. On s'est rendu compte qu'il y a des tas d'organismes marins qui sont capables de faire des colles qui vont réagir, qui vont se déclencher quand elles sont émises dans le milieu marin. Par exemple, certains vers sont capables de construire des espèces de petits châteaux de sable grâce à une colle qu'ils sécrètent. Eh bien, on a mis au point une colle médicale, stimulée par un déclencheur lumineux, par exemple, et qui est capable de se synthétiser exactement là où on en a besoin, et surtout qui est biocompatible. Là, c'est 127 millions d'euros. Et tout ça, en fait, c'est des entreprises qui vont s'inspirer du vivant pour essayer de reproduire technologiquement ce qui peut intéresser plusieurs industries.
Pourriez-vous nous parler des diatomées, Tariq Chekchek?
Ça, c'est un exemple de biomimétisme qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il illustre assez profondément les changements de paradigme. Pour faire du verre, nous avons besoin de 1000 à 1200 degrés Celsius, à peu près. Ça dépend des types de verre, mais on a besoin de haute pression, haute température, souvent dans nos processus industriels, et je rajouterai même des solvants toxiques. Très efficaces technologiquement, mais toxiques. Les diatomées, ce sont des petites algues marines, unicellulaires, qui ont un magnifique squelette en verre. Déjà, la forme a inspiré des tas de designers, architectes, parce que la forme en elle-même a quelque chose d'intéressant à nous apprendre. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est qu'elles sont capables de faire du verre dans de l'eau à température ambiante. Alors, est-ce que Sapiens Sapiens, autoproclamé, est capable de faire aussi bien que des diatomées qui ont des centaines de millions d'années, voire milliards d'années? Eh bien, la réponse est oui. Il y a en France, entre autres, Jacques Livage qui a pris sa retraite maintenant, qui travaille au Collège de France, Clément Sanchez également maintenant, qui ont réussi à faire ce qu'on appelle le procédé Sol-Gel. Rendez-vous compte, on remplace la haute température par la fabrication dans de l'eau à température ambiante. Et pour les diatomées, parfois c'est 2 degrés Celsius. C'est pas même pas 30 ou 40. Et là, pour le coup, on passe de la civilisation industrielle du feu à la manufacture dans de l'eau. Qu'est-ce que ça ouvre comme champ des possibles ? À 1500 degrés ou à 1200 degrés, vous ne pouvez pas mélanger le verre avec beaucoup d'autres choses, vous cramez tout. Par contre, quand vous le faites précipiter dans de l'eau à température ambiante, vous pouvez imaginer par exemple des structures en fibres de lin où vous déposez du verre. Vous pouvez imaginer enfermer dans des microbilles de verre des bactéries qui sont bonnes pour la peau ou pour des applications biomédicales. Et vous voyez que tout un champ des possibles en termes d'application s'ouvre. Évidemment, il faut repenser la chaîne de valeur, il faut repenser les systèmes de récupération, de réutilisation, mais on a quand même un changement de paradigme.
Et puis accessoirement, ça dépense beaucoup moins d'énergie de ne pas avoir besoin de chauffer pour fabriquer du verre.
Exactement. C'est-à-dire que le vivant est une industrie, si on peut le dire, pour employer un petit peu une métaphore, fixatrice de carbone. Le carbone n'est pas un problème. Nous en avons fait un problème en changeant le réservoir terrestre, le réservoir biologique, et en mettant finalement beaucoup de carbone dans le réservoir atmosphérique. Mais le carbone est un formidable atome pour créer des liaisons stables avec des tas d'autres atomes. Et c'est une ressource fondamentale. Nous sommes nous-mêmes, notre corps humain, est fixateur de carbone. Alors imaginez quand on a des animaux qui sont capables de faire même des... Bon, on quitte le verre là maintenant, mais des coquilles en carbonate de calcium, on est sur du carbone transformé en pierre qui est capable de rester dans le sol, dans la lithosphère, pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années. Et donc l'invitation que nous fait le vivant, c'est d'être une économie fixatrice de carbone et pas simplement se contenter de réduire nos émissions.
Le vivant a beaucoup à nous apprendre. Je me pose une question, Tariq Chekchek. Est-ce que vous parvenez encore à admirer la nature sans y chercher des solutions, des exemples, des leçons à en tirer? Est-ce que le biomimétisme est en permanence dans vos pensées devant un beau paysage, par exemple?
Ça, c'est une question importante. Merci. Parce que je pense qu'on a, en tant qu'humain, des capacités à l'émerveillement qui sont très, très importantes à stimuler, surtout de nos jours. Quand beaucoup de nouvelles peuvent être un peu déprimantes et qu'on peut perdre un peu les lueurs d'espoir qui sont tellement importantes pour nous mettre en vie, justement, nous donner envie, envie d'avenir, entre autres. Et le vivant peut être une source d'inspiration absolument extraordinaire, et je dirais que l'inspiration, ça peut être la poésie, ça peut être la philosophie, ça peut être l'art. Et ça peut aller jusqu'à la résolution de problèmes. Donc toute cette dimension d'un être humain est stimulée par le vivant. Sans faire pour autant d'angélisme, le vivant c'est aussi le danger. Tout ça fait partie de la façon dont un être humain est capable de se relier au vivant.
Le danger en tout cas du biomimétisme, c'est de ne voir dans le vivant qu'une source d'inspiration technique ou technologique et de perdre ce dont vous parlez, cette capacité à s'émerveiller tout simplement.
Une source d'inspiration qui peut se déployer de l'inspiration purement poétique jusqu'à l'inspiration pour résoudre un problème. Mais une source d'inspiration, oui, ça je veux bien garder.
Merci beaucoup, Tariq Chekchek.
Merci à vous.
D'être passé dans les studios des carnets de campagne. Stratégie inspirée du vivant, donc à l'Institut des futurs souhaitables. Bonne journée.
Merci, de même.
Et merci à toute l'équipe des carnets de campagne. Sophie Hoffmann, Lila Rapoport et Joseph Ascal à la préparation des émissions. Florian Dittre et Loïs Moreau aujourd'hui à la technique.